Dimanche dernier, alors qu'on est dans cette série dans Samuel, ce n'était pas prévu d'ailleurs, on va parler du roi David, mais quelqu'un est venu poser la question, mais comment se fait-il que David, il est dit de David qu'il était soutenu par Dieu, que Dieu était avec David, alors qu'il a tué 200 hommes, 200 philistins. C'est une bonne question à se poser. Et le texte de ce soir s'y prête bien. Ici, on voit David s'emparer de la ville de Jérusalem pour l'occuper. Dans la suite, on voit deux batailles avec les Philistins. Et l'auteur met en évidence que Dieu est le véritable auteur de la victoire. Le nombre de morts n'est pas mentionné, mais c'est inévitable, il y en a eu. Que penser de ces guerres auxquelles Dieu est associé dans ce passage ? On s'indigne avec raison de croisades qui ont été faites dans l'histoire au nom de Dieu. On voit dans le Nouveau Testament Jésus qui meurt en demandant le pardon pour ses ennemis. On le voit enseigner qu'il ne faut pas prendre l'épée, renoncer à la violence. Alors comment comprendre tous ces morts, comme on vient de le découvrir dans notre passage ? Alors on ne va pas faire le tour de la question ce soir. J'espère qu'il y aura des éléments qui donneront un cadre à cette réponse. Pour le moment, j'aimerais simplement faire une citation de Blaise Pascal. La plus cruelle guerre que Dieu puisse faire aux hommes en cette vie est de les laisser sans cette guerre qu'il est venu apporter. Bon, on a besoin de la digérer. Mais qu'est-ce qui est préférable pour les humains ? Qu'est-ce qui est préférable pour les humains ? Qu'ils soient livrés à leurs propres penchants, leurs propres désirs, leurs propres conflits, leurs destinées. Dans la perspective biblique, l'être humain n'est pas dans une position neutre, il est dans un conflit avec Dieu. Vis-à-vis de lui, il y a une hostilité qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'indifférence, ça peut être la haine, le rejet. Mais il souffre, l'être humain, de cette trajectoire. Et toute intervention de Dieu, et en particulier la venue de Jésus, montre qu'il y a un conflit de valeurs. Il y a bel et bien une guerre. Mais c'est précisément parce que Dieu n'est pas indifférent au sort des êtres humains qu'il intervient. Et il y aura véritablement conflit, oui, en vue d'un plus grand bien. On va, comme dit, soulever d'autres éléments au fil du texte, mais on le découpe en deux parties, ce passage. Une installation marquée et une déstabilisation manquée. Notre texte est un peu comme les photos qu'on avait au début de la présidence de François Hollande. Vous savez, il y avait la fameuse photo présidentielle, mais aussi toutes les photos qui ont accompagné sa mise en place. Ici, on a un peu comme une combinaison de photos sur la royauté de David, son installation en tant que roi. L'auteur de ce livre sort de son style ordinaire pour donner une sorte de synthèse officielle à cette intronisation. On commence avec une installation marquée. Il y a une reconnaissance dès le départ de la part de représentants des tribus du nord d'Israël. Juda, au sud, avait déjà reconnu David comme roi 7 ans plus tôt. Et pour cette installation, il met en avant 3 arguments. On y va avec le premier, nous sommes tes os et ta chair. Un élément relationnel. Rappel d'un passé commun. Déjà, lorsque Saül, notre roi, était notre roi, c'était toujours toi qui menais Israël en campagne et qui l'en ramenait. Et le rappel d'une promesse. Le Seigneur t'a dit, c'est toi qui feras paître Israël, mon peuple. C'est toi qui seras chef sur Israël. Et en les écoutant, la question qu'on a à l'esprit, j'espère, c'est pourquoi est-ce qu'il aura fallu autant de temps pour le réaliser ? Ça fait 15 ans, là, ces arguments-là remontent 15 ans en arrière, au minimum 15 à 20 ans. Ils ont soutenu Saül lorsqu'il était roi dans sa traque de David. À la mort de Saül, ils ne se tournent pas vers David, ils vont prendre le fils de Saül. Pour le reconnaître roi, David est seulement reconnu dans sa tribu de Juda. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont reconnu ici seulement ? On peut certainement y voir une part d'entêtement, un manque de lucidité de leur part. Mais là, finalement, ils reconnaissent que David est bien le roi qu'il leur faut. Ils font une alliance avec lui, ils vont lui faire une onction, symbole de cet appel à être roi. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de cela ? Certainement, pour David, avec le rappel d'une promesse comme troisième argument, un rappel d'un Dieu qui a été fidèle pendant ces 15 années et plus. Il était berger lorsqu'il a été appelé, et là, il devient le berger d'un peuple, et Dieu a tenu sa promesse. Une invitation pour nous, n'est-ce pas, à avoir confiance dans les promesses de Dieu. Cette promesse faite à David, elle a traversé les années où il a été poursuivi par Saül, qui voulait le mettre à mort, un roi paranoïaque. Elle a traversé les nombreux dangers auxquels David a fait face. Elle a traversé la rébellion des tribus du Nord. Elle a traversé les luttes intestines. Elle a traversé tout cela pour être accomplie finalement. Mais c'était pénible pour David. On lit des psaumes où il crie sa détresse, son désarroi. Jusqu'à quand ? Pourquoi est-ce que je vis tout ça ? Il se demande naturellement si Dieu et quand Dieu va accomplir ses promesses. Si nous sommes croyants ce soir, il y a certainement ce genre de questionnement qui nous vient à l'esprit. Jusqu'à quand ? Pense à telle ou telle parole que Dieu a prononcée ou qu'on trouve dans les Écritures et on n'arrive tout simplement pas à voir comment il est en train de la réaliser. Même genre d'interrogation sur le moment de son intervention, une attente qui semble interminable. Est-ce que nous allons croire à l'accomplissement de ses promesses ? Je ne te délaisserai pas. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La deuxième photo qui marque son installation, c'est la prise de Jérusalem. Et sur un plan purement politique, c'est un bon choix stratégique de la part de David d'installer la capitale à Jérusalem. D'une part, c'est en dehors de la tribu de Juda. Il se trouve que Jérusalem est sur le territoire de Benjamin. Et Benjamin, c'est la tribu de qui ? De Saül. C'est comme si David fait un pas dans la direction d'une tribu qui pourrait le haïr. Une sorte de rapprochement entre les deux. Et même chose pour la situation de Jérusalem qui se trouve entre le nord et le sud, entre les tribus qui le rejetaient jusque-là. Et sur un plan stratégique, il y a aussi une ville difficile à prendre. Mais dans la description de ce qui se passe, il y a certainement une autre intention de la part de l'auteur. Si on remonte dans le temps, il y a une autre promesse. Quelques 800 ans plus tôt, c'est Abraham qui recevait une promesse et qui concernait les Jébusites. En Genèse 15, Dieu annonce à Abraham que par grâce, il va lui donner un territoire là où il est étranger, résident temporaire, une possession et une descendance qui va occuper ce territoire. Et dans cette promesse, il mentionne la prise du pays et la promesse d'un jugement sur les nations qui occupent ce territoire, les Jébusites entre autres. Et à Abraham, Dieu dit que leur crime n'est pas encore arrivé à son comble. Alors vous me demandez peut-être quel genre de crime est-ce qu'ils vont commettre pour en arriver à une intervention de la part de Dieu. Eh bien écoutez un auteur qui le décrit. À leur pratique idolâtre s'ajoutèrent en effet le culte de la fertilité où les gens s'unissaient sexuellement avec les prêtresses et les prêtres païens pour encourager les dieux à copuler dans l'espoir d'amener la prospérité sur le pays et les foyers. Et même le sacrifice d'enfants, comme cela fut le cas lorsqu'ils offrirent des bébés au dieu Moloch, dont la coupe en pierre était chauffée au feu. Et les Jébusites font partie de ces peuples qui ont eu ces pratiques dans les années qui se sont écoulées. Au moment de l'entrée dans le pays, promis, au moment de Josué, des juges, Jérusalem n'est pas prise. Ils arrivent à résister. Et dans ce qui se passe ici, au moment de David, on voit comme une réalisation de cette promesse. Et une double facette, il y a à la fois la réalité d'une rédemption, d'un plan, d'un projet de salut qui concerne toutes les nations et dont Abraham fait partie. Sa descendance va être une bénédiction pour toutes les nations. Il y a déjà Jésus qui est en vue comme bien pour toutes les nations. Mais dans cette promesse, il y a en même temps la réalité d'un jugement que Dieu prononce contre ces nations, une intervention contre le mal. Et ça, c'est un élément à avoir dans notre réponse à donner. Cette prise de Jérusalem, c'était dans le projet de Dieu à la fois un jugement et une œuvre de rédemption. Mais elle était loin d'être gagnée, cette prise, et on le voit dans la moquerie des Jébusites. Leur assurance se voit dans ce qu'ils disent. « Tu n'entreras pas ici, » à David, « car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Autrement dit, c'est imprenable. Ils pourraient s'en charger eux-mêmes, on n'a même pas besoin de la défendre. Et pourtant, la citadelle sera bien prise et elle va changer de nom, elle va devenir la ville de David. Son installation à Jérusalem, en tant que roi, elle est marquée par cette affirmation. David s'élevait de plus en plus et le roi et le Seigneur, le Dieu des armées, étaient avec lui. Et dans la Bible, Jérusalem va servir de type, de symbole, d'une réalité future pour tous les croyants. Il est question à différents endroits d'une nouvelle Jérusalem, et en particulier dans l'Apocalypse, où il est question d'un lieu en sécurité où Dieu accueillera ceux qui ont été au bénéfice du don de la vie, du fils de David, de Jésus. Et l'allusion à Jésus dans ce passage a quelque chose d'intéressant pour une transition avec la prochaine photo, puisqu'en Apocalypse 21-24, alors qu'il était question de cette nouvelle Jérusalem, il dit que les nations, dans la vision de Jean, dans ce qu'il voit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le paragraphe suivant? Eh bien, on trouve un roi, Hiram, le roi de Tyr, une puissance du moment, qui offre ce qu'il y a de meilleur pour la construction du palais de David, du cèdre et des artisans pour construire ce palais. Et le commentaire de nouveau, c'est que David sut ainsi que le Seigneur l'affermissait comme roi sur Israël et qu'il élevait son règne à cause d'Israël, son peuple. La sagesse de David, c'est de reconnaître, de savoir que c'est de Dieu que cela vient et aussi que c'est pour le bien de son peuple, pas simplement pour son bien à lui. Les photos d'installation sont flatteuses pour David et on pourrait avoir l'impression d'un portrait idéalisé, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on découvre ensuite? David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron. Des fils et des filles naquirent encore de lui. Pour un roi de n'importe quelle nation aux alentours, c'est un bon commentaire, ça. Signe de puissance, de gloire, quelqu'un qui peut pourvoir à des concubines et à d'autres femmes. C'est un signe de gloire, de prestige, mais pas dans la perspective biblique. Déjà en Deutéronome 17:17, Moïse avait annoncé qu'un roi ne devait pas prendre d'autres femmes, créer toutes sortes d'alliances. Et là, on voit que si David, sous bien des aspects, est remarquable, le portrait qui est fait ici nous dit qu'il y a des signaux d'alerte et il va malheureusement vivre les conséquences de ses erreurs. On va voir des guerres intestines dans sa propre famille, viol, inceste, jalousie, rivalité, coup d'État, tout cela dans sa propre famille. Et ce sera aussi le cas pour son successeur, Salomon. Et c'est l'occasion de faire une autre remarque par rapport à ce qu'on a dit. Ce n'est pas simplement comme si Dieu s'en prenait à toutes les nations, sauf à Israël. Israël aussi va être scruté, sondé, et eux aussi vont devoir faire face aux conséquences de leurs erreurs. Dans la suite de l'histoire d'Israël, on voit un exil, une déportation pour le royaume du Nord, le royaume du Sud. Il y a bel et bien des conséquences. Et si nous sommes croyants ce soir, c'est certainement une invitation pour nous aussi à considérer la prudence dans la manière de vivre. Dieu voit tout, il sait tout, et rien ne lui échappe. À un moment ou à un autre, nous aussi, nous aurons des conséquences à nos erreurs. Même s'il y a un plein pardon en Jésus, nous continuons dans notre vie présente à voir les conséquences d'erreurs du passé. Et on devrait y être attentif dans notre manière de vivre. On termine avec une déstabilisation manquée. Aujourd'hui, on attend encore de voir comment la situation va, va se passer en Ukraine. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un jeu de déstabilisation, ou en tout cas des accusations des deux côtés. D'abord, c'était les Russes qui accusaient les Occidentaux de déstabiliser Yanukovych, le Premier ministre. Et aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui accusent la Russie de déstabiliser l'Ukraine en alimentant la rébellion dans les zones russophones. Et au moment de l'installation de David en tant que roi, on voit qu'il y a aussi une tentative de déstabilisation. Des rivaux sur un plan militaire, des gens qui avaient une hégémonie dans cette région, eh bien, ils voient David comme un homme à abattre, l'homme fort du moment, il faut se débarrasser de lui, parce qu'une nation unie sous un même roi, et un roi comme lui, c'est dangereux pour nous. Et là, ils se rassemblent dans la vallée de Réphaïm, sud-ouest de Jérusalem, et voici ce qu'on lit. David interrogea le Seigneur, « Dois-je attaquer les Philistins? Me les livreras-tu ? » Le Seigneur dit à David, « Vas-y, car je te livrerai les Philistins. » Pourquoi est-ce que David consulte le Seigneur ? Il y a toute une armée qui s'installe. Ce n'est pas pour ramasser les champignons. S'ils sont là, c'est qu'ils viennent combattre. Est-ce qu'il a besoin de demander s'il doit les attaquer ou pas, se défendre ou pas ? Mais si ici David demande à Dieu, c'est tout simplement qu'on le sent, qu'on le voit dans une relation de dépendance et de confiance vis-à-vis de Dieu. Il prie, il obéit. Il y a cette relation avec Dieu qui décrit une belle attitude de sa part. Et là, on voit une première victoire, mais les Philistins n'en restent pas là. Ils se remettent au même endroit pour de nouveau prendre Jérusalem. Avec l'expérience d'une première victoire, on pourrait imaginer que David se dit « Bon, bah, c'est bon, la première fois, j'ai su comment m'y prendre, ou on m'a dit comment m'y prendre, je vais faire pareil. » Mais là, de nouveau, on lit que David interrogea le Seigneur. Malgré l'expérience, malgré tout ce qu'il a déjà vécu, il est conscient qu'il dépend de Dieu. Débâcle pour les Philistins, une fois encore, ils sont repoussés jusqu'à Gézer. Et à partir de là, les Philistins ne seront plus une menace pour la nation d'Israël. La première chose qu'on peut retirer de ce texte, à mon avis, c'est qu'il y a un sens de direction, un sens de dépendance, et il y a un principe tout simplement de prière et d'obéissance qu'on doit retrouver chez nous, si nous sommes croyants vis-à-vis de Dieu, un désir de dépendre et d'être conscient que nous dépendons de lui, que les choses nous échappent dans notre fragilité. Par contre, il y a certainement une différence dans la manière d'entendre des réponses. Il me semble que le Nouveau Testament ne met pas l'accent sur des réponses claires et précises, instantanées. Non, il faudra plutôt agir de cette façon, ou oui, il faudra agir de telle façon. Dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur une sagesse et un discernement qui vient de la compréhension des Écritures, de sa parole. Mais bel et bien une invitation à la prière, un sentiment de dépendance et une obéissance à sa parole. Mais il y a plus que cela dans ce texte, cette dernière partie. Comment est-ce que ces victoires sont relatées? On voit au verset 20, voici ce que David affirme après la première victoire. « Le Seigneur a ouvert une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal Peratsim, maître des brèches. » Dieu est décrit comme l'auteur de cette victoire, le maître des brèches, mais l'image est celle d'un raz-de-marée qui ravage tout sur son passage. Vous savez peut-être, pour ceux qui l'ont vu, la communauté des agneaux dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, Arwen et Frodon qui s'échappent avec un cheval et des Nazgûl qui les poursuivent. Et c'est là qu'un raz-de-marée va les protéger, les garder. C'est un peu l'image qui est utilisée ici. Dieu était comme un raz-de-marée. La bataille, elle s'est passée comme un raz-de-marée, au sens figuré. Qu'en est-il de la deuxième bataille? Et bien dans celle-ci, David doit s'y prendre différemment, prendre les Philistins à revers. Mais Dieu lui annonce comment ça va se passer. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est le Seigneur qui se met en campagne devant toi pour battre les troupes des Philistins. Difficile de savoir à quoi ressemblait ce bruit, bruit de vent, un bruit d'origine surnaturelle, difficile à dire. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que Dieu va au-devant de lui. C'est Dieu qui va au-devant de lui dans cette campagne pour battre les troupes des Philistins. Il faut le reconnaître, ce n'est pas le genre de représentation qu'on aurait au départ en pensant à Dieu, n'est-ce pas ? On pense à un Dieu d'amour, on pense à quelqu'un qui est profondément doux et hyper doux même. Mais ici, il s'agit d'un Dieu qui nivelle tout comme un raz-de-marée, un guerrier, le Dieu des armées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? À ce moment-là, dans l'histoire de la rédemption, alors que le peuple d'Israël sert de modèle de la manière dont Dieu prend soin de son peuple, Dieu se met clairement de leur côté pour les protéger de leurs ennemis, qui sont ses ennemis aussi. Ça ne signifie en aucun cas qu'il faudrait justifier aujourd'hui un combat, une lutte de telle nation contre telle nation. C'est certainement pas ce que cela veut dire pour nous. Jésus a bel et bien enseigné à ses disciples à renoncer à toute violence. L'apôtre a bien écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le plan de rédemption que Dieu a engagé a en vue la suppression de toute guerre, de toute mort. Ce qu'on découvre à plusieurs endroits dans la Bible, et en particulier à la fin, dans l'Apocalypse, c'est qu'il est déterminé justement à découdre avec toute guerre, toute opposition, toute hostilité. Petite remarque que je trouve intéressante par rapport à David, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il ne pourra pas construire le temple à Jérusalem, c'est un guerrier qui a trop combattu, il a fait couler trop de sang. Autrement dit, même lui n'est pas apte, la guerre n'est pas neutre. Il nous faut bien comprendre que cette cessation de toute guerre, elle nécessite une intervention. Il faut être cohérent. Pensez à des moments où vous avez un conflit en tête ou une situation pendant la Deuxième Guerre mondiale et vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu pendant l'Holocauste? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu? Où il était durant le génocide du Rwanda? Et dans cette perspective-là, c'est un Dieu interventionniste qu'on demande, quelqu'un qui intervient. Et c'est précisément ce Dieu interventionniste qu'on trouve ici. Quelqu'un qui intervient. Même chose à la fin des temps, Apocalypse 19 présente Jésus comme celui qui rend justice. Il est présenté souvent comme un agneau qui a été immolé, mais là, il est présenté comme un guerrier. Et ce que notre texte annonce à sa façon, c'est qu'un jour, toute guerre va cesser. C'est vrai. Parce que le roi des rois, le guerrier, sera intervenu avec justice contre tout le mal qui a été commis. Alors, ça paraît difficile, la question reste difficile pour nous à comprendre, à accepter peut-être. Mais il s'agit là d'une anticipation, d'une intervention de la part de Dieu pour cesser toute hostilité vis-à-vis de lui et vis-à-vis des êtres humains en général. Et ça nécessite l'intervention d'un Dieu guerrier. Et c'est ce qui doit rassurer des personnes qui sont victimes d'un conflit. Il y aura bel et bien justice pour une personne en Centrafrique ou ailleurs qui vit une injustice. Il y a cette assurance d'un Dieu juste qui interviendra. Et si Dieu fait preuve de patience, c'est pour que le plus grand nombre prenne conscience de la gravité de leur mal. Si Dieu intervient, c'est pour assurer son peuple qu'il est juste et qu'il interviendra bel et bien contre toute injustice. Amen.